Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur RFI bien sûr. Et nous commencerons aujourd'hui en Afrique avec ce CHAN reporté à deux semaines du coup d'envoi et à la veille du tirage au sort, le plus grand flou qui régnait déjà d'ailleurs sur cette compétition, c'est encore un peu plus accentué. Quel avenir pour le CHAN en Afrique, dans le calendrier notamment continental? La Coupe de France qui continue pour Lille et le Stade de Reims au niveau des huitièmes de finale, alors que l'OM et Monaco sont éliminés dès les 16e, une fois de plus, bien avant la finale. Donc, que signifient ces éliminations dans leur saison? La première ligue Red de plaisir. Le rouge, celui des maillots des trois équipes qui sont aux avant-postes sur le podium pour l'instant. Liverpool toujours en tête, mais freiné hier soir par de séduisants Garibaldi et leur buteur Chris Wood, bien sûr ceux de Nottingham Forest. Et puis il y a les Gunners qui résistent, eux, malgré les mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles de blessures. Avec nous dans ce studio aujourd'hui, il y a Monsieur Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour Doucet. Madame Annie.
Tout va bien?
Mais oui. Oui, bonne année deux fois. Enfin, deuxième fois plutôt.
Mais surtout pour nos auditeurs, ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière.
Voilà.
Bonjour Yoram Mangara.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Très heureuse de vous retrouver avec nous dans ce studio. C'est une note d'ailleurs, c'est peut-être le hasard, mais un heureux hasard. Beaucoup de consonances africaines aujourd'hui. Bonjour Hervé Penaud.
Bonjour, mais quel plaisir d'être en votre compagnie. Et ça me fait plaisir justement d'avoir ce côté rapport africain.
Exactement, même si les nouvelles ne sont pas toujours les plus réjouissantes à commenter, n'est-ce pas? Et on va y venir tout de suite d'ailleurs. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Le championnat d'Afrique des nations CHAN est reporté au mois d'août.
Parmi les pays organisateurs, Tanzanie, Ouganda et Kenya, il y en a un qui est un peu plus en retard que les autres, qui a accumulé ce retard. On sait que c'est le Kenya, donc c'était vraiment le dernier moment pour annoncer ce report.
Les trois pays ont désormais 6 mois de plus pour terminer les travaux et pouvoir accueillir ce 8e championnat d'Afrique des nations.
Quel timing! La CAF nous surprendra toujours, n'est-ce pas les amis?
Oh oui.
Et c'est sans doute là sa meilleure arme. Dernière décision en date, le report du CHAN qui devait commencer dans 2 semaines et dont le tirage au sort se déroulera en fin d'après-midi, aujourd'hui même. Alors espérons que les mains expertes des personnes désignées ne trembleront pas au centre de convention internationale Kenyatta de Nairobi. Mais en fait, les rumeurs qui enflaient de plus en plus ces derniers jours, et je pense que vous en aviez connaissance autant que nous, vous l'aviez aussi sans doute compris à travers le carton jaune subtil de Frédéric Suto dans notre café des sports de vendredi. On manquait donc d'infos, de calendrier, de répartition des matchs pour suivre la compétition, dans quel endroit, dans quel pays. On manquait même du nom des deux qualifiés qui restaient à désigner. Et paf, on a appris hier, il y a à peine 24 heures, Philippe Doucet, que le CHAN est reporté. Est-ce que vous avez été surpris?
Non. Non, du tout. Non, du tout, parce que je savais qu'au Kenya, les stades n'étaient pas prêts. Un aurait pu être très vaguement prêt, mais c'était juste déjà pour ce stade. Et comme il n'y avait qu'un stade en Tanzanie et un seul en Ouganda, ça faisait que 3 stades. En fait, le CHAN a failli se disputer avec un stade à Zanzibar, qui est tout neuf et qui aurait pu permettre de faire le CHAN, sauf qu'il est en pelouse synthétique. Et que la CAF s'est dit, bon, le ridicule ne peut tuer quand même à un moment. Il y a un moment où il ne faut pas exagérer trop. Et ils n'ont pas osé, et ils ont eu raison, évidemment, de prononcer ce report. Donc oui, non, pour répondre à la question, aucune surprise. Malheureusement, on savait que le Kenya serait, comme d'habitude, j'ose dire, pas prêt.
Est-ce que c'est un aveu d'impuissance de la part de la CAF Yoro et puis peut-être aussi trop d'ambition de vouloir faire un CHAN à travers 3 pays? Une CAN encore, c'est la grande fête du football avec des moyens sans doute plus importants, ne serait-ce que ceux des sponsors et de la retransmission. Mais là, vouloir faire un CHAN qui a déjà du mal, on va y venir à trouver sa place, mais à cette échelle, finalement, il y a un problème.
Il y a un problème, et les gens, ils oublient d'ailleurs que cette compétition devait se tenir en 2024.
Oui, oui, ça s'appelait d'ailleurs. Alors souvent, on traîne ça, hein, c'est comme la Cannes.
Oui, c'est les années paires, normalement. Oui, oui.
Exactement. Donc, elle devait se tenir en 2024.
La on même année qu'un,
que la Coupe du Monde.
Que la Coupe du Monde des clubs, que tant d'autres compétitions. Mais l'année dernière, ça devait surtout se faire la même année que la Cannes.
Et du coup, on reporte en 2025. Et là, il faut encore décaler. Moi, je trouve
mais
que...
le timing, 15 jours avant le coup d'envoi, le mais, jeu, mais, la, mais, la, mais, 24 mais, heures du tirage au sort.
Mais de toute façon, cette compétition, si elle continue comme ça, elle va disparaître à Nigasné. Je suis désolé parce que non seulement elle n'est pas considérée par les pays qui ont des clubs puissants comme l'Égypte, comme le Maroc, etc. Cette compétition n'est pas considérée. La CAF elle-même, je ne crois pas qu'elle respecte cette compétition parce qu'elle n'ose pas le faire avec la Coupe d'Afrique des Nations. Reporter une compétition 2 semaines avant son démarrage, la CAF
alors,
n'ose
c'est,
pas...
C'est un glissement en général, ce n'est pas un report.
Non,
c'est donc même, elle ose c'est... le faire avec la CAN, c'est ça que je voulais dire.
Elle n'ose pas faire. Moi, pour moi, soit cette compétition disparaît, soit il n'y aura plus de pays qui comptent et qui accepteraient d'accueillir cette compétition. Parce que là, on savait tous que le Kenya ne sera pas prêt. Même en 2025, même en 2026, ils ne seront pas prêts. On verra pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Ouais, ils sont censés être prêts en août.
Ce ne sera pas prêt. Tout le monde sait que ce ne sera pas prêt.
Hervé, comment vous voyez-vous ça? Est-ce que finalement, ce Chan, on croyait qu'il avait fini par gagner des galons de respectabilité. Est-ce qu'il est aussi victime d'avoir été imaginé par des dirigeants du passé?
Non, moi je serais moins dur que Euro, pour tout vous dire, parce que je pense que ça peut être une alternative pour des pays qui n'ont pas la possibilité parfois soit d'être qualifiés pour des Cannes, je pense par exemple à la Centrafrique, hein, un grand moment aussi,
ben oui,
toutes ces qualifications-là pour eux, ça a été quelque chose d'important. Hein. J'avais un ami journaliste, Fridolin, là, il m'a dit, il était content, il a reçu plein de félicitations de plein de confrères qui étaient évidemment contents.
La Mauritanie finalement commence à apparaître dans le football africain grâce au Chan et va successivement gravir les marches.
Tout à fait.
La Libye,
évidemment, avec une finale en Afrique du Sud. Vous pensez par exemple même à des équipes comme ça, comme le Rwanda, quand ils ont organisé le Chan, ça a été un grand moment aussi pour eux, parce que c'était une possibilité aussi de montrer un peu les infrastructures naissantes de ce pays-là. Donc moi, je serais moins dur. Je pense que c'est une compétition qui peut avoir et qui doit avoir sa place dans le football africain, alors qu'à ses débuts, je n'y croyais pas du tout, je vais être honnête avec vous. Je pensais que c'était une compétition plutôt qu'autre chose. Là, non, je pense que ça peut aider quand même certains pays à mettre en valeur un peu un patrimoine sportif, à développer aussi des infrastructures. Hein, parce que, bon, pour le coup, le Kenya, c'est un mauvais exemple, parce que là l'argent existe, mais ils n'ont rien fait depuis des années et des années. Et on savait de toute façon qu'ils ne pouvaient pas jouer sur 2 stades au Kenya. C'était une assurance touriste. Déjà, on le savait avant même le tirage au sort. On prolonge jusqu'en août. Pas certain que ce soit terminé. On verra bien. Bon, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais toujours est-il que je pense quand même que c'est une compétition qui peut avoir son importance. On a vu des joueurs se révéler. Je pense à Eliam Echak, par exemple, au Rwanda, qui avait été un très très bon joueur, après qui est parti, parti en Suisse.
Moi, je me souviens, on en parlait tout à l'heure avec Christophe Jousset, de Ayoub El-Kaabi dans ce Chan en 2018 au Maroc.
Il va à la Coupe du Monde
grâce au Chan. Donc, il a eu presque une deuxième carrière après ça.
Ah bah oui, ça a été le début de sa vraie carrière.
La révélation.
Hein, parce qu'il n'était pas grand-chose, hein, il jouait à Berkane à l'époque.
Et puis c'est important aussi peut-être pour le Sénégal, l'a remporté ce Chan. Bon, ils étaient déjà champions d'Afrique, mais ça veut dire aussi que la pépinière, là, elle fonctionne, quoi.
Mais
c'est ce qu'on peut dire sur certains pays.
Le Mali, au Rwanda, avait plein de jeunes qui aujourd'hui sont dans des grands clubs européens. Donc, je pense qu'on peut s'y intéresser. Et puis, le public local s'intéresse.
Nous, on
quand
s'y était intéressé, en tout cas.
Fait,
et
je
me souviens de celui de 2022 ou de 2021, je ne me souviens plus bien, mais quand on y va après Alors, il y a eu le glissement de la CAN, donc tout le monde se tourne vers ce Chan organisé au Cameroun, et ça avait été un grand moment de Chan.
J'ai adoré le Chan au Cameroun. Hein. Mm-hmm. Je suis allé là-bas pour mon plaisir.
Ben, je me souviens.
Et c'était vraiment ça. On s'était vu d'ailleurs. Et c'est vrai que c'était intéressant. On voit des nouveaux joueurs. Il y a une compétition qui intéresse les supporters locaux, parce qu'il y a des gens qui connaissent leurs équipes et connaissent leurs joueurs.
Auprès donc, du public, ça marche. Ça, c'est un argument qu'il faut employer, évidemment. C'est qu'auprès du public, ça marche. Le public africain marche et considère vraiment son équipe nationale, où pourtant en général il y a évidemment 0 joueur de l'équipe A, enfin ça dépend des pays, mais disons que dans les grands pays il y a 0 joueur de l'équipe A, après pour Mauritanie ou autre c'est différent, mais donc on pourrait avoir tendance à la à la banaliser un petit peu. Et non, le public africain aime cette compétition et a l'impression que c'est la vraie. Comme c'est, ils fêtent une victoire, pas tout à fait, mais enfin, ils fêtent vraiment comme, comme si l'équipe nationale avait réussi un exploit.
Le bel exemple, c'est la qualification, effectivement, vous y faisiez allusion, de la Centrafrique pour le CHAN. Mmh. Ils ont été reçus par le président de la République, ça a été une véritable fête.
Mais la Centrafrique qui se qualifie, c'est un moment fort pour le pays, parce qu'il faut s'imaginer comme c'est un pays qui rêve d'aller déjà dans une CAN. Là, vous avez la possibilité, alors petit à petit, ils gravissent quelques marches. Et là, vous avez la première marche vraiment importante qui est franchie. Et ben, vous dites, peut-être plus tard, on ira plus loin. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a un impact sur les gens qui suivent le football local.
Non. Au fait, le peuple aime cette compétition. Mmh. Un grand pays comme la RDC, quand il remporte le CHAN, vous avez vu l'accueil que les Léopards ont eu avec Mbutu Trésor, qui était porté en héros parce qu'il a été le meilleur joueur de ce CHAN. Mais le problème, c'est son organisation. Parce que je ne vois pas d'abord une compétition réussie à part celle qui vient de se passer en Algérie, où le CHAN a été carrément une réussite.
Ah oui, magnifique.
C'était vraiment magnifique. Quand ils ont annoncé il y a une semaine que le vainqueur aura quelque chose comme 3 milliards, je crois, de francs CFA.
Ils ont augmenté la récompense.
Je me suis dit, enfin, ils ont compris, mais après, reporter derrière,
enfin,
ça n'a
pas
de sens.
Alors justement, le problème du calendrier. Écoutons le président de la Fédération de Côte d'Ivoire, Yacine Idriss Diallo, parce que c'était avant tous ces événements plus que récents. Mais il avait évoqué les problèmes que ça pouvait créer dans un calendrier.
Le CHAN. Ce n'est pas une compétition qui était prévue au début de la saison. Et puis la CAF nous a imposé de jouer le CHAN. Vous voyez comment on a été obligé de faire des réorganisations, des complications pour que, par exemple, vous voyez dans l'équipe du CHAN, il n'y a pas de joueurs de la SEC, il n'y a pas de joueurs du stade, parce qu'ils sont engagés en compétition africaine.
Et oui, c'est ça, c'est-à-dire tout ce super... Alors déjà qu'on parle des calendriers internationaux et des calendriers surchargés, mais là, c'est exactement ça, les éliminatoires, c'est compliqué. Là, il manquait deux équipes, on ne savait pas si ça serait un mini-tournoi. Puis alors, pour les uns, c'est une leçon, pour les autres, c'est une autre, c'est absolument incroyable. Et là, ça va être au mois d'août, c'est-à-dire que là, théoriquement, il n'y a pas de championnat, ça sera après le Mondial des clubs.
Pour les clubs, c'est mieux.
C'est mieux, mais pour les joueurs
seulement. Oui, enfin pour les clubs et les joueurs,
est-ce qu'ils
c'est
seront
mieux.
En forme en début de saison.
Le problème, c'est que de toute façon, aucun championnat ne commence à date. Aucun championnat ne sera commencé. Aucun championnat ne commence jamais. Enfin, celui de Cameroun a commencé en décembre. Mm-hmm. Donc, on va pas élever comme argument que ça va gêner les clubs. En août, personne ne joue à part les clubs qui jouent
en Guinée aussi,
qui jouent en Coupe d'Afrique. Mm. Les clubs qui jouent en Coupe d'Afrique. Oui, ça c'est
on
vrai.
On va pas
ça,
en parler de plus au mois d'août.
Alors là-bas, je ne connais pas la météo. Je ne sais pas si c'est la saison des pluies, j'en sais rien.
Non, il paraît que les températures, selon notre correspondante au Kenya, c'est plutôt agréable à cette période-là, au mois d'août.
Mais le problème du calendrier, il est énorme. Parce que quand on tout d'un coup, on instaure cette compétition, on change toutes les dates des qualifications des Coupes d'Afrique. La Ligue des Champions et la Coupe des Confédérations ont accéléré à une vitesse grand V pour finir le premier tour là, fin janvier, alors qu'elle devait finir peut-être un mois plus tard. Donc on a serré tout ça. Pendant ce temps-là, on ne joue pas en championnat. Donc il y a des équipes, la SEC ou autres, qui vont compter 3, 4, 5 matchs de retard, pas de problème, c'est pas grave. Aucune lisibilité pour les championnats, qui évidemment n'ont pas commencé à l'heure, sont en retard. On va être obligé de compresser tout ça. Alors bon, là, il y a une petite bouffée d'oxygène quelque part, parce que tout d'un coup, on se retrouve avec un mois de date qui était perdu et qu'on récupère puisque finalement les championnats vont pouvoir changer toutes les dates et rejouer. Mais c'est un problème récurrent et la CAF a une vraie responsabilité parce qu'elle-même n'est absolument pas exemplaire et change sans arrêt ses dates. Parallèlement, les fédérations ne sont pas exemplaires non plus parce qu'elles laissent traîner, elles laissent commencer les championnats en retard, etc. Et tout ça dévalorise l'ensemble. Tout est dévalorisé par le fait qu'à l'arrivée, le Sénégalais ne sait même plus quand il y a une journée de championnat. Il ne sait même pas quel match il y a ce samedi-là. Il ne sait pas si c'est le fameux match qu'il avait prévu ou finalement c'est la journée d'après ou autre. Le Sénégalais, évidemment, je dis le Sénégalais parce que Yoro est là, mais sinon c'est valable pour à peu près tous les pays.
Yoro, est-ce que justement il y a eu... Alors vous êtes les tenants du titre, vous, les Sénégalais. Est-ce qu'il y a
il est
eu...
Il est fier d'ailleurs, hein, il nous regarde, il nous toise.
C'était le moment où il gagnait
surtout
tout,
les Sénégalais. Quand on voit le championnat sénégalais, gagner le CHAN, c'est ouais. pas prévu quand même.
Et du coup, Yoro...
Merci Camara quand même.
Y a une...
La mine.
Il y a une déception de ne pas pouvoir remettre son titre en jeu.
Forcément, parce qu'ils se sont préparés pour. Je sais que...
On imagine dans la tête des joueurs, là. Ils étaient presque prêts, là.
Et puis, ce que les gens ne savent pas, cette compétition permet à ces joueurs de rêver d'aller jouer un jour en Europe.
Bien sûr.
Voilà, ils se disent,
ou dans des grands clubs africains. Je pense au TP Mazembe, je pense à l'Afrique du Nord, bien sûr.
Exactement.
La Tanzanie qui attire beaucoup de joueurs aujourd'hui,
d'Afrique de l'Ouest. Et même des entraîneurs sénégalais.
Absolument.
Donc, s'ils ne partent pas, c'est une déception pour eux, Annie.
Bon, donc, c'est triste, Hervé.
C'est triste. Si c'est bien organisé en août, parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas l'organiser aujourd'hui. Tout a été tellement compressé, on l'a dit.
Ouais.
Donc, si c'est bien organisé en août, bon, ça peut faire une belle compétition. Ce qui me gêne plus, pour tout vous dire, c'est qu'organisé sur trois pays... Oh non, même pas, parce que là, malheureusement, je pense que je ne pourrais pas y aller. Mais organisé sur trois pays, ce n'est pas simple. Franchement, il ne faut quand même pas se mentir.
Tout en sachant que les budgets alloués aux équipes locales sont vraiment inférieurs au budget des équipes.
Mais oui, c'est ça. C'est pour ça que l'étaler sur trois pays, je disais, une CAN encore, bon, maintenant, ça devient la mode pour les Coupes du Monde, pour les euros, pour tout ça. Mais là, quand même, c'est compliqué pour une compétition qui se veut presque plus à la maison, quoi. C'est-à-dire avec des équipes et des joueurs, surtout.
Il y a de plus en plus d'équipes aussi. Donc, c'est toujours pareil. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un gigantisme, évidemment, qui touche tout le monde du football. C'est pas simple. Trois pays, la difficulté après, comment vous faites? Est-ce que vous laissez chaque groupe se rencontrer jusqu'à demi-finale en fonction des pays? Enfin, parce qu'il va bien falloir croiser à un moment. Donc, ça demande aussi un peu de contingence administrative. Tout ça, c'est pas toujours très simple. Mais il faut quand même dire aussi que du côté du Kenya, c'est pas sérieux. Parce qu'à un moment, quand vous avez l'organisation d'une compétition, les gens de la CAF peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pas eux qui vont aller faire un stade ou juste créer quelques petites
choses.
Ils surveillent
quand même.
Ils surveillent.
Ils n'ont pas découvert à 15 jours du tirage au sort.
Non, ils l'ont pas découvert. Mais même si vous le découvrez, la preuve, ils leur ont donné le tirage au sort. Ce qui voulait dire, logiquement, c'est important.
Le problème, c'est qu'ils ont donné, ce qui est quand même un peu irresponsable, ils ont donné comme pays de base de cette compétition, justement le Kenya, qui était quand même le seul pays où il y avait zéro stade de prêt. C'était quand même un vrai risque.
C'était un risque.
Là-dessus, la CAF n'a pas forcément très bien géré, mais je serais comme Hervé, je la câblerais
moins que
sur d'autres dossiers.
Oui.
Parce que je suis déjà heureux qu'elle n'est pas condamnée, le Chan. Honnêtement, j'avais très peur l'année dernière qu'elle condamne le Chan, qu'elle avait laissé traîner. Mm-hmm. On ne savait pas quand il se
disputerait. Justement, 2024, on avait zéro nouvelle.
Je trouve, merci à Sedoun Joya qui a pris le dossier en main, tant bien que mal, le dirigeant camerounais, qui a quand même à peu près fait en sorte que... Enfin bon, aujourd'hui, il n'est pas récompensé puisque ça n'a pas lieu tout de suite. Mais bon, et moi, j'ai une solution pour sauver le Chan définitivement, c'est qu'on remplace la CAN U23 qui n'a pas une grande signification, qui ne sert pas à grand-chose, par ce Chan, du coup, qu'on limite à 23 plus des joueurs, quelques joueurs de plus, pour, comme les Olympiques en fait, et qu'elle qualifie surtout, que ce Chan qualifie pour les Jeux d'IO, à la place de la CAN U23.
Ben oui.
Pour moi, ce serait la solution pour le pérenniser. Ce serait tous les 4 ans, ce serait avant les JO, par définition. Mmh. Et puis, du coup, voilà.
Ça serait clair.
Je vais un petit bémol là-dessus. Ça voudrait dire que ça empêcherait les joueurs. Tu veux dire, toi, tu ferais 23...
Tu les récupérerais aux JO.
Mais ça empêcherait quand même des joueurs qui ont 28, 29 ans, 30 ans, qui jouent dans des championnats locaux.
Mais ça n'a pas d'intérêt.
On l'a dit, justement, ça n'a pas d'intérêt.
Pour eux.
Tu vois comment tu parles de ces beaux joueurs. Parce que tu as au-dessus de 23 ans, tu devrais être mis au rencard. Quel scandale,
Philippe. Tout à l'heure, tu as dit, et puis ça peut leur permettre d'aller en Europe. Aujourd'hui, il y a un joueur du Cameroun qui, à 28 ans, va aller en Europe.
Ça peut leur permettre d'aller dans des clubs africains de meilleur niveau.
Mais pour moi,
les recruteurs ne viennent pas au Chan, d'ailleurs.
La première réforme, c'est de permettre aux joueurs africains qui évoluent dans d'autres pays de pouvoir participer
à ça. Ça s'est fait maintenant.
Oui, bien sûr. Ça avait été décidé. Ça avait été récemment décidé. C'était une réforme d'ailleurs qu'on appelait de nos voeux.
Depuis qu'elle est créée.
Depuis le début. Mais il faut quand même dire que ça, c'est quand même une compétition pour les joueurs africains qui évoluent. 23, 24, 25, 27 ans, pour moi, ils ont tous droit d'y participer.
Et quel que soit le pays, c'est-à-dire un Sénégalais qui joue en Égypte, un Égyptien qui va jouer en RDC
c'était nouveau et
ça mettait en valeur aussi la mobilité et les clubs. Allez, on suivra ce tirage au sort, ne vous inquiétez pas, notamment dans les journaux de nos confrères des sports, bien sûr, et puis nous on y fera allusion dans Radio Foot.
Passe à Cohen et c'est fait. Le Stade de Reims est en huitième de finale de la Coupe de France.
le Stade de Reims qui s'offre le scalp de l'AS Monaco. Rien que ça.
Passez pour Jonathan Lowe avant de déclencher. Et avant de voir son penalty arrêté
par Vito Manon qui vient qualifier les Lillois. Succès de Lille au bout d'un scénario exceptionnel. L'égalisation au bout du temps additionnel de l'OM. Et cette séance de tir au but parfaitement maîtrisée par Vito Manon et ses coéquipiers. Lille qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France.
Les années se suivent et se ressemblent pour l'OM et Monaco. En Coupe de France, ces deux équipes ne réussissent plus dans cette plus vieille compétition hexagonale. Hein. Depuis longtemps, plus de victoires, en tout cas en Coupe de France, depuis 1989 pour l'OM et 1991 pour Lille, Monaco. Et bien comme depuis plusieurs saisons.
Lille avait gagné en
2011. Non, je dis Monaco, pardon.
Ah, pardon.
Monaco, 1991. Et comme depuis plusieurs saisons, et bien élimination précoce. Hier donc, dans la belle ambiance du Vélodrome, n'est-ce pas, mon cher Hervé?
Magnifique,
vous aviez ce privilège.
Magnifique.
L'OM emmené par Rabiot, Rongier, Mopé, Greenwood a été éliminé par le LOSC. Avant de commencer à parler du match et d'évoquer les dogs, un sujet un peu troublant des fois, c'est quand même cette compétition qui a, je dirais, presque des règles différentes. On n'a pas de VAR. Donc pas de contrôle vidéo des décisions de l'arbitre et puis pas de prolongation directement, on passe bing boum du match au tir au but. Ça vous gêne, Yoro ?
Moi ça me gêne parce que pour moi, déjà quand on a vu hier le match de l'Olympique de Marseille, l'arbitre il était perdu parce qu'ils n'ont plus l'habitude d'arbitrer sans la VAR.
C'est la sensation que ça donnait, c'était horrible.
J'attends, ah non, il n'y en avait pas, bon ok, je dois décider. Mais c'est compliqué, soit ça doit être même tarot pour tout le monde, toutes les compétitions doivent avoir la VAR. Autre chose.
Ça arrive en quart de finale seulement. Hein. Ça veut dire que c'est un peu injuste pour avant.
Oui, mais enfin là, on parle de Coupe de France.
Vous jouez mais c'est stades, important.
Ça coûte très cher. Mais enfin, on peut pas
mais
avoir
la VAR partout. La VAR, Hervé.
Il n'y a plus d'argent.
Il n'y a plus d'argent.
Réalité, c'est qu'il n'y a plus d'argent.
Bien sûr.
C'est la vraie vérité. Hein. Au-delà du fait qu'effectivement, dans certains stades, au 32e, ce serait très compliqué d'aller mettre au stade de Dives-Cabourg, je pense que c'est difficile de mettre le VAR.
En Normandie, comme vous connaissez.
En Normandie, oui.
Yoro, vous voulez continuer ?
Oui, mais pour moi, donc, la VAR, elle doit sauter, parce que dans certains pays africains aussi, ils ne peuvent pas l'avoir. Ça montre... Moi, je ne veux pas qu'on ait deux footballs. Un football pour l'élite et un autre pour les pauvres. C'est dommage.
Hier, ceux de l'élite étaient arbitrés comme des pauvres.
Ça a toujours été ça.
Ça a toujours été ça.
Et pas de prolongation ?
C'est une aberration. En France, on ne veut plus jouer au foot, en fait. C'est simple. On veut réduire à 18, voire demain à 16, parce que je pense que la question se posera
la
assez vite.
La Coupe de France en milieu de semaine.
La Coupe de la Ligue, ça fait trop de matchs. Et puis la Coupe de France, ouais, c'est quand même fatigant. On ne sait jamais si on a un match trois jours après. Donc, on va enlever la prolongation. Bon, pendant ce temps-là, les autres jouent au foot. Et on regarde de plus en plus les autres championnats, parce qu'ils occupent toutes les dates. Ils jouent sûrement trop. Il y a un autre débat à avoir, il est vrai. Mais par contre, en France, on ne fait ni du quantitatif, ni du qualitatif. Donc on est comme d'habitude dépassé.
Quand on est supporter de l'OM,
et puis
on
ça dégrade la compétition.
Exactement.
Ça dégrade. Un Marseille-Lille méritait une prolongation, évidemment.
Exactement. On égalise dans les arrêts de jeu,
et
on dit
là
c'est fini. Pour un supporter, c'est vraiment décevant.
Frustrant.
C'est frustrant.
En tout cas, commençons par rendre hommage à ces dogs qui avaient du mordant hier, ces Lillois, d'une résilience impressionnante. On va y venir. En tout cas, ils l'ont emporté au tir au but et grâce à leur gardien. Un peu provocateur, hein, le gardien, n'est-ce pas, Hervé, l'Italien, là, avec Balerdi, notamment.
J'ai pas ça, trop vu, de loin. Ça,
ah oui, de loin. Eh bien, nous, de près, on le voyait, hein, le Yoro, n'est-ce pas?
Oui.
Il le cherchait un peu. Hein,
il cherchait tout le monde.
De sa ligne.
Avec Balerdi, il était sûr de le trouver.
Voilà, exactement.
C'est ce qui s'est passé, justement.
Non. Il y a eu débat.
Mais en tout cas, il a arrêté deux tirs au but. Écoutons-le, Vito Manone.
C'est un match incroyable à gagner parce que prendre les buts là à la dernière seconde, nous sommes bien défendus pour 90 minutes. Et ça fait mal, mais tu dois réagir. J'ai déjà passé là, un match similaire en Angleterre. Dernière minute, un but encassé et après j'arrête de penalty à Manchester contre Manchester United. Donc je travaille tous les jours pour ces moments-là et je suis content de pouvoir aider l'équipe. Et nous avons été très très forts mentalement, nous avons bien tiré les penalties et je suis content.
C'est vrai qu'être solide mentalement dans le VEL, c'est toujours une épreuve. Mais les Lillois, on va se dire, avec ce qu'on voit en tout cas dans leur réalisation sur le parcours européen en Ligue des Champions, c'est une équipe solide, Hervé, et ils l'ont encore montré.
Ben, ils sont assez impressionnants, franchement, parce qu'il y a beaucoup de blessures. Ce n'est pas un effectif
XXL. C'est pas des noms ronflants, on va dire, mais voilà, c'est des bons joueurs.
Des bons joueurs, oui, ce sont des bons joueurs. Mais là, il vous manque votre arrière-droit, qui est vraiment un très bon joueur, Thiago Santos, out jusqu'à la fin de saison. Il vous manque Zegrova, qui est un peu un facteur X dans cette équipe, en tout cas capable d'être le facteur X dans ses bons jours.
Quand il peut.
Vous avez Jonathan David, qui est un peu à côté de ses pompes, même si sur le but...
Il n'est pas blessé.
Il est là, mais il n'est pas blessé au moins. Mais sur le but, il fait exactement ce qu'il faut. D'ailleurs, je lui ai mis une bonne note, parce qu'à partir du moment où vous faites ça, c'est au moins ça vous sauve un match. Mais il n'a pas la forme qu'il peut avoir. Vous avez Gudmundsson qui se blesse au bout de 10 minutes, etc. etc. C'est un effectif... Alors, on parle de résilience dans la vie, dans le foot. Et ben là, c'est le symbole absolu.
Ouais.
Ils sont quand même sur 20 matchs. Sans défaite, c'était un record. Mais ce n'est pas 20 matchs. Lors de leur précédent record, c'était 19 matchs. Ils étaient en D2. Là, vous avez 20 matchs. Vous avez le Real Madrid, Juventus, Bologne. Deux fois l'OM à domicile, à l'extérieur. Donc, à un moment, ça prouve quand même qu'il y a quelque chose dans cet effectif. Alors, un entraîneur qui mène bien son groupe. Un président aussi, il ne faut pas l'oublier, qui serre aussi les boulons qu'on faut savoir les serrer. Et puis, vous êtes accompagné de... toujours un petit peu de réussite. Un petit moment, ça tourne un peu de votre côté et pas du côté du voisin.
Super entraîneur.
Ah ben, top entraîneur. Et ce qui est très drôle, depuis quelques temps, ils n'arrêtent pas de pointer les défauts. À la fin du match, qu'est-ce qui s'est passé? Première phrase, en gros, de Genesio, c'est dire « Encore une fois, on ne doit pas prendre ce but. » Alors au début, je me disais que c'est un peu excessif. C'était un peu excessif parce que... voir
ça
toujours
ressemble
le côté...
au personnage quand même.
Et finalement, je me suis dit, il doit bien connaître
le
ses troupes. Et d'une certaine manière, c'est sa manière de management. Et c'est un management qui fonctionne. C'est-à-dire qu'avec ce groupe-là, peut-être qu'il faut voir d'abord ce qui ne fonctionne pas, tout à côté, en enrobant les phrases de état d'esprit formidable, machin, mais on ne fait pas assez parfois. Mais l'état d'esprit est génial, les joueurs sont super. Enfin, donc, c'est savoir manier le bâton et la carotte.
Il y a trois jours, il a été très sévère avec son équipe.
Ouais.
Et quatre jours après, il dit, de toute façon, l'état d'esprit est fantastique. Alors qu'il dit quatre jours avant, bon, ceux qui ont plus envie de jouer avec Lille, il faut qu'ils partent.
Mais quatre jours avant, quand il avait dit ça, une question sur et l'état d'esprit, vous aviez dit pourtant il y a un mois qu'il était parfait. Ah, il est irréprochable. Donc, il faut savoir démêler le vrai du faux.
Ouais.
Déjà succéder à Paolo Fonseca, c'était pas évident.
Non, absolument. Non.
Venir perdre Bentaleb, qui n'est plus là, qui était l'un des meilleurs joueurs lors de la saison dernière.
Même s'il est en phase, il serait en phase de reprise.
Oui.
Il a eu un problème cardiaque, rappelons-le, à l'entraînement. Mais...
Et ce n'est pas la première fois, malheureusement.
Philippe, en tout cas, ils sont intéressants, cette équipe de Lille, parce qu'effectivement, pas de nom ronflant, mais des résultats. Alors, cette invincibilité. Et puis, en championnat de France, il faut toujours compter avec eux. C'est Lille de Genesio.
Oui, ils ont une régularité impressionnante, symbolisée par ce chiffre effectivement de non-défaite. Concéder quelques nuls, bien évidemment, sur le parcours, parfois eu un peu de réussite, y compris arbitral d'ailleurs, pas tellement. Bon, hier soir, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais surtout quand à Lens ou à Madrid, contre Atlético, ça fait partie aussi de la dynamique de cette équipe. Mais moi, j'avais été les voir à Rouen, le match de Coupe de France de fin décembre, j'avais trouvé. Pareil qu'en termes d'état d'esprit, attaquer un match comme ça contre une équipe de nationale où souvent on voit les joueurs un peu « bon, ça va, ça ira bien, ça se passera bien », puis ils se font un peu bousculer, puis après ils se réveillent. Non, eux, pas du tout. Ils avaient été hyper sérieux. J'en avais parlé avec Genesio, effectivement, à la fin du match. Je trouvais que vraiment, on n'a pas ces résultats-là si on n'a pas cet état d'esprit et ce comportement de groupe remarquable. C'est une base.
Oui. Alors, en face, Yoro, les Marseillais, on s'est dit, avec l'égalisation à la dernière seconde du Brésilien Luis Enrique, on se dit, ils sont dans le positif, là, ils vont y aller. Luis Enrique est le premier à manquer son tir au but. On se souvient du traumatisme qu'avait laissé la défaite face à Annecy il y a quelques années.
Il y a un an.
C'était l'année dernière.
Il y a deux ans. Alors là, ce n'est pas vraiment une petite équipe d'amateurs, mais quel impact ça peut avoir sur la suite de la saison de Marseille, alors qu'on avait la sensation qu'il y avait une dynamique, par contre, du côté de Marseille, avec des joueurs qui, enfin, il y a une entente sur le terrain et De Zerbi a imposé son style.
Moi, je croyais qu'ils allaient garder cette deuxième place et aller chercher cette Coupe de France.
Bah oui.
Après, ce que je n'ai pas compris hier dans
ça
le management...
Ça fait des années qu'ils ne gagnent pas de trophée, on le
Exactement.
Disait.
Exactement.
Hein.
Moi, ce que je n'ai pas compris dans le management de l'entraîneur hier de Zerbi, c'est à 2 minutes de la fin, moi, je change le gardien de but. Quoi. Je mets un roulis qui est sur 3 arrêts.
Qui arrête les pénaltys.
Mais il n'est pas le roi, je crois. Il n'est pas le roi. Je crois qu'ils avaient fait leurs 3 changements déjà.
Ah ouais, mais bon, il aurait pu ouais, quand même. Enfin,
prévisible, quoi.
C'est ça.
Hein? On s'organise dans ce cas-là.
Ben, c'est... non, c'est compliqué parce que il a... s'ils font, c'est... parce qu'il n'y avait pas de prolongation, donc on ne peut pas rajouter ce changement supplémentaire. Mm-hmm. Il avait fait ces trois changements. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils égalisent et la fin du match est sifflée à ce moment-là.
Mm-hmm. Bah, oui. Ouais.
C'est-à-dire qu'il ouais, ne pouvait pas. Non, je pense qu'il n'avait pas le choix. Ouais. Je ne vois pas comment il pouvait faire. Sauf ouais, à le faire jouer d'entrée, hein, évidemment.
Ça va marquer les esprits ou pas vraiment? Parce que finalement, ils ne sont pas en Europe. Ils ne seront plus en Coupe de France. Et en championnat, même s'ils restent bon deuxième, en tout cas...
Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ils vont repartir de l'avant. Le plus important, c'est de chasser le PSG et voir si possible, s'ils peuvent passer devant, ce qui n'est vraiment pas, pour moi, ce qui est impossible, parce qu'ils sont déjà 7 points. Mais le plus important, c'est de se qualifier en Ligue des Champions et d'essayer de renforcer cette équipe, surtout du côté de la défense. Pour moi, s'ils veulent aller loin dans une compétition européenne, il faudra changer cette défense.
Mmh. Vous aussi, vous pensez que c'est le point faible?
Ah, c'est un petit point faible, effectivement. Il y a quelques lacunes. Alors, Balerdi, on a l'impression qu'on nous le fait passer pour le nouveau Beckenbauer. Il a encore un petit peu de travail. Et c'est, non, c'est une équipe qui a quelques défauts, évidemment. Mais en revanche, avec un seul match de championnat par semaine jusqu'à la fin, logiquement, sur une dynamique plutôt positive, bon, ils vont quand même être durs à arrêter pour la Ligue des Champions, je pense. Parce qu'il y a quand même du talent devant, notamment Greenwood, qui quand même a... Il a du ballon hein, par rapport à quand même beaucoup de joueurs de Ligue 1. Ils ont un milieu de terrain qui se fait, je ne dis pas c'est ce qui se fait de mieux, parce que vous avez quand même bien sûr Paris Saint-Germain, mais enfin quand vous avez Hojbjerg,
Rabiot
et Rongier, c'est quand même du haut niveau pour le championnat de France, il ne faut pas l'oublier.
En tout cas, fait de match en toute dernière, dans les toutes dernières secondes, le nouveau directeur sportif de ce club, Mehdi Benatia, l'ancien international marocain, a été expulsé. Puni d'un rouge, ce qui l'a eh bien, beaucoup énervé. C'est ce qu'il disait au micro de nos confrères de beIN Sport.
Je lui ai simplement dit à la fin au but de Luis, dites-lui quand même maintenant que c'est fini, qu'il y avait pénalty. Et là, il me dit, vous m'avez menacé avec le doigt. Donc menacé, toujours pareil. Moi, je parle sulfureux, c'est ça les mots qui... Pas le droit de parler, menacé, machin. Mais c'est pas possible, pourquoi j'ai pas le droit de parler? Pourquoi il y a 25 personnes autour et moi quand je parle, il fait 50 mètres, me saute pas et me met le rouge? J'ai quoi moi de différent des autres? J'ai pas le droit de défendre mon équipe, j'ai pas le droit de défendre mes gens ici. Faut peut-être que je pose la démission et je trouve un autre boulot. Mais pourquoi? Je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait moi pour avoir ce traitement?
Mehdi Benatia, un peu hors de lui, Hervé, on l'a vu aux côtés du banc. Alors c'est vrai qu'on a tous remarqué qu'il y avait énormément de monde sur le bord de terrain et pas seulement les gens qui pouvaient y être.
Non mais c'est pas normal, il faut faire le ménage là, il faut
qu'il y ait
des gens qui soient autorisés à y être.
Est-ce que ce carton rouge était trop méchant contre Mehdi Benatia selon vous?
Alors, bon, il faudrait revoir les images. Et puis, est-ce qu'il a le droit de parler, de s'adresser au quatrième arbitre, déjà, en tant que directeur sportif? Est-ce que son rôle, là, il faudrait connaître le règlement et pas particulièrement sur ce point précis. Mm-hmm. En revanche, évidemment, le problème, c'est qu'il a eu tellement de sorties malheureuses, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, sur les arbitres, sur ses propres joueurs, etc., qu'à un moment, la peur que j'avais pour lui, c'est qu'il y ait une forme de délit de faciès. Alors, je ne dis pas faciès en tant que, parce qu'il serait maghrébin, pas du tout, mais faciès de manière globale. C'est-à-dire, puisque vous êtes négatif
de ce que vous avez.
Parce que vous êtes de manière.
Pour l'ensemble de votre.
Vos antécédents. Mm-hmm. Vos antécédents. Et là, évidemment, la manière dont il s'est adressé. J'ose croire qu'il dit pas il ment pas complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, il est allé voir le quatrième arbitre parce qu'il était énervé. Alors, faire des gestes, il en fait tout le temps. Je le voyais durant l'interview, les mains partent dans tous les sens, évidemment. C'est sa manière de s'exprimer. Bon, ça, on ne peut rien y faire. Et effectivement, le quatrième arbitre peut peut-être avoir eu peur, ou j'en sais rien. Mais j'ai la sensation, quand même, sur les images qu'on voit, contrairement par exemple à Olivier Létang, le président de Lille, qui va toucher le quatrième arbitre. On le voit bien toucher le quatrième arbitre. Lui, il s'adresse à lui et peut-être qu'il lui dit ça. D'ailleurs, il veut tellement montrer qu'il a fait, il demande les caméras, il demande les images, les propos qui pourraient être rapportés par les caméras. Donc, d'une certaine manière, je me dis, bon, je
et pense que. Et pour vous, il y avait pénalty en plus.
Ah, il y avait pénalty, oui, il y avait pénalty.
Moi, je crois que c'est un carton rouge mérité. Il faut que les gens arrêtent de parler aux arbitres. Déjà, le match est terminé. Tu dis, mais dis-lui qu'il y avait pénalty. Mais ça change quoi? Est-ce que l'arbitre, il peut revenir sur une décision? Mais je ne comprends pas. Mais c'est fini. Allez-y, tirez vos pénalties. Parce que l'arbitre. Il ne peut pas revenir sur sa décision. Il a décidé de ne pas siffler.
Surtout sans l'avare.
Oh, c'était un quart d'heure avant, en plus. C'est embêtant. Ça serait embêtant tout d'un coup de dire « Ah bon, il y avait pénalty. » Directeur sportif de l'OM. Oui, bon,
Philippe, vous, vous faites partie du camp.
Mais non, mais moi je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. Je m'en fiche complètement. Non, c'est même pas le problème d'arbitrage. Je m'en fiche complètement que Benatia, que Létang, parce que je pense que Létang sera suspendu aussi. Il a eu un comportement qui lui vaudra très certainement une suspension. Si ça peut calmer les Marseillais, ce sera très bien. Mais enfin, honnêtement, c'est même pas le débat. Pour moi, le débat, c'est qu'il faut des instances qui reprennent les choses en main dans ce pays, parce que c'est un football, mais catastrophique. Moi, je suis venu à la fin, j'ai regardé la Première Ligue. Pourquoi je regarde la Première Ligue? Ben, j'ai peur que ce soit en partie à cause de ça. Que j'en ai ras-le-bol, que les matchs soient pourris.
C'est aussi
le niveau du foot est meilleur aussi. Hein.
Bah oui, je ne suis pas fou non plus. C'est vrai.
C'est vrai. Et parce qu'on en parle dans l'émission.
Et puis, parce que j'en ai ras-le-bol que chaque match que je regarde en France me donne une impression de dégoût, une impression de... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc d'amateur? Qu'est-ce que c'est que ce truc de malséant?
J'ai un malaise. Match,
moi, devant les scènes que j'ai vues là, j'ai un malaise. Je vois 40 personnes qui sont à la limite du terrain. Qu'est-ce qu'elles foutent là? Que voilà. Fait le directeur sportif de l'OM là? Que fait le président de Lille là? Que font-ils là? Ils n'ont rien à y faire. Dans les grands pays de foot, on ne voit jamais, jamais, jamais ça. Merci. On ne les voit même pas dans les couloirs des vestiaires. Donc, ils devraient être interdits, les instances. Et moi, je ne suis ni contre Benatia, ni contre Létang. Ils profitent d'un vide, OK, pour faire leur truc, pour faire un show absolument ridicule. Et puis, c'est un show ridicule. Il y en a un, il y a Nicolas.
Ouais, Nicolas,
mais
il ne
bouge pas. Mais il ne bouge pas. Mais cela dit... Moi, je trouve ça complètement anormal. Mais au moins, il ne bouge pas. À la limite, vous dites aux équipes, OK, vous avez 15 places sur le banc, vous mettez qui vous voulez. Par contre, ils sont là au coup d'envoi jusqu'à la fin, ils ne bougent pas. Et si vous mettez le président ou si vous mettez Benatia sur votre banc, il n'y a pas de problème. Mais on ne vient pas comme ça à la fin parce qu'on sait qu'il va y avoir problème et surtout, on sait qu'on va le créer, le problème. Donc, ce n'est pas possible.
Mais là où je te rejoins, c'est
avec des métiers, des titres comme ils ont. Ils sont présidents, ils sont directeurs sportifs. Ça pose un problème tout de suite au quatrième arbitre. Vous vous rendez compte de la pression qu'il a?
Voilà. Bon, c'est vrai qu'on l'a connu de tout temps dans le championnat de France. Rappelons-nous Jean-Michel Aulas, ça avait aussi une manière de mettre la pression. D'ailleurs, c'est un peu Létang. Hein. C'est un peu même pas.
Non, mais c'est notre marque de fabrique. Elle est catastrophique. C'est une image catastrophique.
Je trouve quand même qu'il faudrait faire aussi attention. Alors là, c'est surtout l'histoire des 40 personnes qui sont là près du bord terrain. On a l'impression que tout le monde est venu dans cette séance de tir au but, même les stadiers. Donc à un moment, il faut quand même faire attention. Évidemment, il faut qu'il y ait de l'ordre. Après, qu'un président puisse s'adresser à un arbitre, ça fait partie de notre culture, c'est peut-être pas choquant s'il ne se passe rien, s'il n'y a pas des mots.
Et on a le droit de parler. Si c'est fait avec une certaine...
Exactement.
De toute façon, ils peuvent aller les voir dans leur bureau après la fin du match. Donc...
Heureusement.
Ça ne se fait pas à l'étranger, je signale juste comme ça au passage.
Ouais, mais nous, on aime parler.
Non, mais vraiment...
En quelques mots, le deuxième de Ligue 1 est donc éliminé et le troisième aussi, l'AS Monaco sorti de la compétition, là aussi au tir au but. Monaco qui a fort à faire ces temps-ci pour essayer de revenir, qui a un peu de mal. Et puis en face, ça a peut-être rassuré les dirigeants rémois parce que l'entraîneur Elsner était un peu contesté.
Pendant que l'autre côté, ils ont prolongé l'entraîneur monégasque. Mmh. Voilà. C'est un match que j'ai suivi et j'ai bien aimé la prestation de l'Ivoirien Diakaté. Mm-hmm. Il a été très bon hier.
Et c'est lui qui
marque le but d'ailleurs.
Qui marque le but, le tir au but.
Le tir au but final. Ouais,
le tir au but qui qualifie Reims. C'était la fête dans le vestiaire, évidemment, au champagne, j'imagine. Mais c'est normal.
C'est surtout Yevan Diouf qui a été l'homme déterminant, le gardien de but.
Et qui a décidé de jouer pour les Lions.
Et qui a décidé de jouer pour les gens.
Absolument.
En plus.
Reims, ils aiment bien avoir des fois des gardiens aussi. On se souvient de...
Édouard Mendy.
Il a arrêté l'ami Camara quand même. Il va falloir que s'il veut rentrer en équipe
de sélection. Le Togolais aussi.
Agata Kossi.
Non, il a tiré au-dessus, l'ami.
Ah, il a tiré au-dessus.
Oui, oui, oui.
Quand il a vu, il a dit, c'est un nouveau Sénégalais, je ne peux pas lui marquer un but. Hein.
Allez les amis.
Et 6 matchs, attendez, Monaco, un truc incroyable quand même comme stat. Ils ont 6 matchs contre des équipes professionnelles, parce qu'ils ont gagné en coupe contre une petite équipe. Ils n'ont pas gagné un match.
Mais oui. Non, et là, il y a la Ligue des Champions qui arrive. Et on sait que pour eux, ce n'est pas simple, la mission.
La prolongation de contrat, attention. Vous savez, on peut être souvent prolongé. On a connu ça avec Laurent Blanc. Et puis finalement, la prolongation...
On cite toujours Laurent Blanc, mais il y en a d'autres, qui sont reconduits dans des circonstances parfois étranges. Allez, on continue et on file. Allez, Philippe, on va vous faire plaisir. Vers l'Angleterre. And he sends it forward to Elanga. Elanga forward for Wood. Inside left channel. Great shot! Yes!
Chris Wood re-ivre de bonheur. Les supporters de Nottingham Forest. Il mène 1-0. It's right underneath. Oh, would you believe it? Simicastadjota. And Liverpool have scored. le goût de victoire pour Nottingham Forest qui aura longtemps cru à l'exploit. Joueur de Forest, son seul deuxième de Premier League. Liverpool est à 6 points devant. Mais bravo et merci messieurs.
Mais que de rouge du côté de l'Angleterre. Des équipes rouges en trois premières places. En tout cas, les Reds de Liverpool restent en tête, mais les Reds des Midlands, les Garibaldi aussi, comme on les surnomme, ceux de Nottingham Forest, les ont bien embêtés hier soir, les stoppant un peu dans leur élan. Ils ont arraché ce match nul. Six points les séparent, mais ils ont un match en retard en plus, hein, Liverpool. Donc on verra la suite. En tout cas, buteur hier soir pour Nottingham Forest. Et je dirais bien sûr, parce que c'est Chris Wood au pays de Robin Hood, bien sûr. Il a inscrit. Et oui, la forêt de Nottingham, c'est celle.
Il est apparenté, vous croyez Robin vraiment
mais c'est
est...
Robin Hood. Attention.
Alors, il
ah, oui, c'est vrai en plus.
Ah, oui. Apparenté
Robin Hood.
De. Oui, évidemment. Ah, oui. Le jeu de mots. Il vient de très loin. De
Over... ah, bah, Nouvelle-Zélande.
Over...
Ah, oui, Nouvelle-Zélande.
Oui, exactement.
Ah, oui.
Mais enfin,
néo-zélandais.
C'était l'émigration anglaise aussi, n'est-ce pas? En tout cas, il a inscrit son 13e but en ouvrant le score de ce match spectaculaire.
Les supporters nous ont encouragés dès le début et ça m'a vraiment aidé pour marquer sur une occasion franche. Dans ce genre de rencontre, on a tous besoin de pousser dans le même sens. On est certes un peu déçus de ne pas avoir pu remporter le match, mais le point pris est vital pour nous et je pense que le public l'avait compris aussi. On bosse dur vraiment et on essaye de mettre la même intensité, quel que soit l'adversaire. D'un point de vue personnel, je suis vraiment très heureux d'avoir marqué face à Liverpool. Ça ne m'était jamais arrivé. On doit encore bosser pour se procurer plus d'occasions. On ne pense pas à la deuxième place, mais on se projette déjà sur le match face à Southampton dimanche.
Évidemment, en bon joueur de foot et compétiteur, il pense déjà au prochain match, mais nous, on va encore rester sur celui-là. Chris Wood, 13e but. C'est une histoire incroyable, Philippe. Hein, vous aimez voir ça, sur votre écran.
Oui, dans les... bon, c'est pas le joueur
ans,
que
hein,
je regarde en premier. 33 ans.
Oui.
C'est pas le joueur que je regarde en premier. C'est pas un joli joueur.
Non,
c'est pas l'élégance. C'est typiquement l'avant-centre anglais, même s'il est néo-zélandais, mais c'est l'avant-centre anglais d'une autre époque. Le grand qui joue en pivot, etc. Mais assez habilement, il est assez bon. Il fait aussi des passes décisives. Il n'est pas maladroit du tout par rapport à sa taille et par rapport à son physique. On a l'impression que ça va être le Roubaix du coin, quoi. En gros, le Roubaix du pauvre.
Oui,
parce qu'il a joué dans des petits clubs. Enfin, des clubs très moyens.
Moyen.
Des Leeds quand ils étaient en Championship, des Burnley. Enfin,
Leicester,
voilà, il n'a pas une grosse
Leicester,
mais à des mauvaises périodes. Aston Villa, il est passé aussi, mais bon, rapidement. Enfin bon, non, c'est pas une grosse carrière et qu'il ait cette consécration au meilleur niveau est une très belle surprise, comme Nottingham Forest est une très belle surprise dans son ensemble.
Nottingham Forest, deuxième du championnat, ils prétendent être dans le Big Four cette saison et au rythme où ils vont, je crois que c'est 2 points par match qu'ils ont obtenu depuis le début de saison. Ils sont assez incroyables,
c'est la seule équipe qui a pris 4 points sur 6 face à Liverpool depuis le début du championnat.
Effectivement.
Ils ont battu Liverpool à l'aller, ils font un match nul hier.
Ouais, au retour chez
ils
eux.
Ont une très bonne colonne vertébrale avec Matsels, l'ancien gardien de Strasbourg, qui a été énorme hier. Et puis il y a Murillo, le défenseur central brésilien, puissant, fort, qui n'a pas le physique d'un footballeur. Quand on le voit, on le dit, mais il a quelques kilos
MMA,
trop. Exactement.
Lutte.
Mais c'est puissant, c'est fort. Et devant, il y a Chris Wood, qui était très bon de la tête, parce qu'avant, il marquait beaucoup de buts de la tête, mais cette année, il en marque avec les deux pieds.
Mm-hmm. Ouais. Hervé, vous êtes surpris de voir Nottingham Forest à cet endroit. On savait que depuis quelque temps, ils avaient un investisseur qui pouvait acheter des joueurs, mais finalement, il l'a fait très différemment de Chelsea ou de Newcastle.
L'année dernière, ils ont empilé les joueurs.
Les deux dernières années, c'était n'importe quoi.
Oui, ils faisaient des contrats étranges. Mmh. Mais là, ça paye.
Non, alors que Newcastle l'a fait de manière plus intelligente, j'allais dire. Mais Nottingham Forest, donc, c'est très étonnant, franchement, celui qui s'attendait. Alors déjà, l'année dernière, c'était un peu meilleur, mais là, faire une telle saison...
Enfin, 17e quand même.
Ouais, combien ils font
17e.
17e. Donc, 17e. Donc l'année dernière, c'était
pas
terrible.
Ils viennent de loin, on peut le dire.
Oui, c'est vrai, puisqu'ils avaient fait descendre, effectivement. Et là, cette saison, non, c'est inattendu. On voit qu'on voit le niveau des joueurs, en plus. Bon, c'est vrai qu'on parle de Wood, mais... Wood, c'est pas non plus un immense joueur. Vous révélez pas comme un immense joueur à 33 ans, ou alors ce serait quand même une surprise majeure. Non, c'est une équipe qui a. Bon, ils ont un entraîneur qui connaît bien la Première Ligue.
Hein. Espelito Santo, Nuno Espelito Santo,
qui était aussi à Wolverhampton.
Wolverhampton, non,
qui a joué à Tottenham.
Oui, c'est vrai. Dans un, ben, peut-être qu'il est fait pour ce type de club, parce qu'à Wolverhampton, il avait très bien bossé aussi. Et effectivement, c'est une équipe qui peut laisser la balle à l'adversaire assez facilement, qui joue en contre, qui va très très vite sur les contres, des phases de transition. Donc, il s'appuie sur ses forces, et pour l'instant, ça fonctionne. Mais c'est assez étonnant quand même de pouvoir faire deux matchs comme ça contre Liverpool, parce que la première fois, ça peut être la surprise, là. Mais effectivement,
ouais, ils accrochent tous les gros.
Voilà.
Hein.
Mais il faut quand même mettre en avant Matt Cels, hein, oui. Parce que Cels, il fait une saison
assez
incroyable.
Oui, parce que Diogo Jota, il a réussi à mettre son but, mais alors les autres, il y a eu beaucoup d'occasions aussi du côté Liverpool. Et celui qui était impressionné, c'était Arne Slot, l'entraîneur justement des Reds.
Après 20 rencontres, on peut bien mieux juger le classement que lors des 5 ou 6 premières journées. Et quand vous vous retrouvez avec Liverpool et toutes les autres équipes dans le wagon de tête, ça n'est évidemment pas par hasard. Ils sont très durs à jouer et en plus, ils ont déjà eu des matchs compliqués à l'extérieur contre Manchester United, City ou Arsenal. Nous, on les a déjà affrontés deux fois. Mais tout cela montre bien que Nottingham Forest est une équipe compétitive qui va lutter jusqu'au bout pour être au sommet.
Liverpool n'a qu'à bien se tenir, Philippe.
Je pense que sur 38 matchs, 38 matchs, Liverpool sera devant. Il y a pas de débat. Et puis Liverpool est cette année est au-dessus des autres de ses concurrents en Angleterre. Mais Nottingham Forest est bien placé, compte tenu de sa solidité, est bien placé pour rester dans les quatre, ce qui serait déjà un exploit extraordinaire. Hein. Il faut quand même devancer pour l'instant Arsenal, Chelsea, Newcastle, Manchester City. Aston Villa, on ne parle même pas de Tottenham et de Manchester United qui doivent être à 10 points de Nottingham Forest. Plus de 10 points d'ailleurs. Plus de 10 points, plutôt 14. Ouais. Ah non, 17. Non, c'est très impressionnant le parcours de Forest. Après, il faudra tenir sur la durée, bien évidemment. C'est toujours la difficulté parce qu'en Angleterre, quand vous avez une défaillance, elle peut être redoutable parce que vous avez beaucoup, beaucoup de bonnes équipes. On a vu que City, je pense que si City avait été en Ligue 1, on serait à peine aperçu qu'ils allaient moins bien parce qu'ils auraient gagné quand même pas mal de matchs. Bon, voilà, en Angleterre, si vous n'êtes pas bien à un moment, alors là, vous faites des séries.
Hier, ils menaient 2-0, ces Citizens.
Avec la pression du résultat, parce que pour la première fois, au bout d'un moment, ils vont y croire. Et quand vous y croyez, vous n'abordez pas les matchs de la même manière.
Et puis, il y a des vrais bons joueurs et l'équipe est installée maintenant. Alors qu'avant, c'était n'importe quoi. Ils changeaient 6 joueurs par match.
Les Citizens, ils menaient 2-0 à Brentford, rattrapés 2-2 au score final, et notamment quand Sam Bemo, Euro.
Yann Wissa, l'international congolais aussi, qui est le meilleur buteur de l'histoire du club. Je crois qu'il a raté un but juste après le premier but de Phil Foden. Il se rattrape. Moi, je n'ai pas reconnu Man City sur les 20 dernières minutes parce que cette équipe de Brentford également, elle est très bête.
Ils prennent des buts à partir de la 82e minute.
Ouais, c'est incroyable. Mmh. Ça paraît hallucinant. On ne sait pas ce qui se passe dans cette équipe de City. Mais je croyais qu'ils étaient remontés un peu.
Il y a une fragilité. Il reste une fragilité, même s'ils ont mis deux jolis buts et qu'ils ont globalement fait un match qui avait l'air plutôt pas mal.
Mais en avant quand même.
Mais il y a des fragilités. Il y a des fragilités. En fin de match, ils sont même capables de prendre le troisième.
Le troisième,
c'était possible.
Ça a failli.
C'est dire que quand même, il y a encore des fragilités.
Il y a Nathan Naquet qui sort le ballon, c'était déjà vu. Ouais.
Mais pour les auditeurs quand même africains, il faut dire que Wissam, Bemo, ils font quand même une saison assez incroyable.
Brentford est impressionnant.
Tony est parti.
À savoir aussi Arsenal, le troisième sur le podium et qui jouera ce soir contre Tottenham, on y reviendra. Mais eux, la dernière mauvaise nouvelle, c'est Sterling qui va être absent une grande partie de la saison, à tel point que Arteta a dit on va regarder du côté des transferts. Il a mal au genou. Non, c'est pas Sterling d'ailleurs, pardon. Jésus, Gabriel Jésus, pardon. On se retrouve demain, merci à tous.